Bonjour à tous, je suis vraiment très content et très honoré aussi d'être avec vous. Je remercie François pour l'invitation, l'accueil que j'ai eu aussi hier soir de la part des jeunes en particulier. Et c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer et de prendre connaissance un petit peu aussi de ce qui se fait dans les Vosges. Comme je disais ce matin, je connaissais les bonbons, la Vosgienne, et maintenant je connais aussi le climat. Donc c'est bien, je resterai sur l'image et le souvenir des bonbons et aussi de vos sourires. Alors, ce matin, François m'a demandé de conduire une réflexion pour nous encourager à vivre l'Évangile et à le rendre ordinairement visible et compréhensible au quotidien dans nos vies par nos contemporains. Et c'est dans cette réflexion que je voudrais vous conduire, et je voudrais, pour introduire, nous donner un petit peu une illustration. Comme vous le savez, vous constatez, au quotidien, nous vivons dans un monde d'écran. Ici, chacun, je pense, à peu près à un écran sur lui. Au moins un téléphone ou un ordinateur. Chez nous, les écrans se multiplient et il n'y a qu'à voir maintenant, en prenant le bus ou même en étant en voiture dans les bouchons, tout le monde est derrière son écran. Et ces écrans véhiculent constamment une certaine vision du monde, des valeurs, nous donnent aussi des idées, nous nourrissent dans nos pensées. Et puis, en tant que chrétiens, nous savons aussi qu'il y a des tentations qui nous sont soumises à nos yeux. Il y a aussi une certaine gestion à avoir pour ne pas se laisser manger dans ces écrans et pas se retrouver à 5 dans la même pièce, chacun derrière son écran. Je sais que ça doit vous arriver comme à moi dans ma famille parfois. Et je voudrais prendre l'exemple d'un des médias en particulier qui est la télé. Chaque chaîne télé a son identité propre. Il y a une identité visuelle, il y a un public cible, et il y a des émissions qui sont créées en fonction du public que l'on veut atteindre. Il nous suffit de comparer par exemple TF1 avec une chaîne comme Énergie 12 ou encore Arte. Vous voyez, ce sont des chaînes avec des identités, des missions totalement différentes. Et si je vous dis un sigle, un leitmotiv d'une chaîne de télé qui est celui-ci, l'actualité en continu. À quelle chaîne de télé pensez-vous en particulier? Pardon, un peu plus fort? LCI, oui, presque. Je pensais à BFM TV, mais c'est un petit peu des sœurs jumelles. L'actualité en continu. Et vous voyez, dans ce slogan, il y a toute l'identité de la chaîne. L'actualité en continu. C'est la mission de BFM TV, c'est de retransmettre l'actualité en continu 24 heures sur 24. Et je trouve, il me semble, qu'en tant que disciple, en tant que chrétien, et aussi en tant que communauté locale, chaque communauté locale et chaque disciple, nous sommes le BFM TV de Dieu. Nous retransmettons l'actualité en direct de Dieu. Nous projetons constamment, par notre comportement, par nos paroles, par nos actes dans la société, que ce soit au lycée, au collège, au travail, au club de sport, dans toutes les activités que nous faisons, nous retransmettons des images. Nous sommes comme un immense écran avec deux jambes et deux bras qui se baladent. Et nous retransmettons une vision du monde, nous aussi, que les gens lisent dans nos vies. Une vision du monde, des valeurs, et une image de l'Évangile. Qu'elle soit juste, qu'elle soit conforme à la parole de Dieu ou pas. Dans tous les cas, nous retransmettons nous aussi quotidiennement un message. Nous sommes les écrans que Dieu utilise au quotidien pour retransmettre l'Évangile, pour que l'Évangile soit ordinairement visible et compréhensible dans notre société. Notre mission en tant que chrétien au quotidien est de retransmettre l'Évangile, de l'incarner, de le défendre et de l'illustrer par notre vie. Nous sommes, en somme, une interface privilégiée que Dieu utilise. Et ceci nous mène à une question. Quand on se regarde, nous-mêmes personnellement, individuellement, et quand on regarde aussi nos communautés, que renvoyons-nous comme image de l'Évangile dans notre société? Est-ce que les gens peuvent lire l'Évangile dans notre vie au quotidien? Ou est-ce que sur nos écrans, il n'y a que des choses qui nous concernent nous, et au final, les infos que nous retransmettons en direct au quotidien ne changent pas beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne croient pas qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous? Le CNEF, dont toutes nos assemblées ici font partie, a lancé ce slogan, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il dit ceci: c'est par la présence de croyants nés de nouveau, fonctionnant localement comme un corps en Jésus-Christ, que l'Évangile devient ordinairement visible et compréhensible. Et je crois que c'est fondamentalement vrai et que c'est fondamentalement biblique. Et vous savez, malheureusement, je constate, et je tombe moi-même souvent dans ce travers-là, que lorsque l'on parle d'évangélisation, tout de suite, on en revient à des méthodes et à des processus. Vous avez sûrement entendu soit des prédications, soit lu des ouvrages ou lu des articles, ou participé à des ateliers divers qui nous présentent 5 niveaux, 5 clés pour présenter l'Évangile. Les 3 étapes, les 4 niveaux pour annoncer l'Évangile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, oui, peut-être, oui, je vois quelques têtes qui hochent. Des méthodes. Comme si nous pondions des méthodes, 5 étapes pour adorer Dieu. 5 étapes pour vivre la communion fraternelle. Nous résumons ça dans notre société à des méthodes, et ces méthodes aussi se vivent. Alors je ne suis pas contre, et je crois qu'il y a des astuces à avoir et à cultiver pour pouvoir présenter l'Évangile. Mais l'évangélisation, le témoignage au quotidien ne se résume pas à une méthodologie. C'est une question de vie ordinaire, de vie quotidienne, qui impacte, qui illustre l'Évangile. L'un des fléaux de l'Église moderne, de l'Église au XXIe siècle, et je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à nos églises, et je pèse mes mots, c'est ce qu'on peut appeler l'athéisme fonctionnel. Je m'explique. Je crois dans le secret de ma chambre, je crois quand je suis au milieu de mes frères et sœurs, mais quand je suis en public, quand je suis en société, je fonctionne comme un athée. Parce qu'aujourd'hui, notre société a fait de la foi quelque chose de totalement privé. Mais une foi privée est incompatible avec le message même de l'Évangile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'athéisme fonctionnel. Je crois, mais je me comporte comme un athée. Et notre culture nous convoque à passer 2 tests que je vous propose de voir ce matin. Le premier test est celui de la crédibilité. On nous attaque parce que nous ne sommes pas crédibles. Nous proclamons un Seigneur, un Sauveur, et nous vivons comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas présent dans nos vies au quotidien. Je ne veux pas faire une généralité, je ne dis pas que c'est notre cas à tous, mais c'est quelque chose, un danger dans lequel on peut tomber. Un autre test qui est celui de la vérité. Comme vous l'aurez constaté, bien sûr, bien mieux que moi sûrement, notre société a un gros problème avec la notion de vérité. Ce qui compte, c'est d'être sincère. Si tu crois sincèrement, tant mieux. Mais ne me dis pas que c'est la vérité. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Oui, mais la vérité existe. Et j'illustrerai ça un petit peu plus loin. Je vous propose ce matin, au travers d'un texte, que nous nous encouragions, au travers de la parole de Dieu, à vivre l'Évangile pour qu'il soit ordinairement visible et compréhensible. Alors nous connaissons des textes, nous pensons tout de suite à des textes comme quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre ». Il y a un texte qui est un petit peu moins connu et que je vous propose de lire ensemble ce matin, et je tirerai quatre enseignements, quatre commandements de ce texte, et je vous invite donc à prendre votre Bible en Colossiens au chapitre 4. Épître aux Colossiens, chapitre 4. Et je vais lire les versets 2 à 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous. Nous, c'est Paul, Timothée et Epaphras. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je voudrais tirer donc de ce texte quatre commandements que dit Paul. Le premier, c'est persévérer dans la prière. Persévérer. Ce week-end, j'ai pu apprendre à connaître un petit peu plus François. Lui, il a appris à me connaître, moi aussi. Il me partageait son ministère, il m'a raconté dans les grandes lignes sa vie. Et la première chose qui m'est venue, c'était la persévérance. Et j'ai trouvé que c'était beau d'avoir persévéré comme ça dans cette petite région que je ne connais pas du tout. Et que c'est beau de rencontrer des frères et sœurs qui persévèrent fidèlement dans leur service pour le Seigneur. Et là, Paul demande de persévérer dans la prière. Persévérer, c'est quelque chose, par définition, qui nous coûte, qui est difficile à faire. Et pourquoi Paul insiste là-dessus ? Si Paul insiste, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il s'agit véritablement d'un combat. Et que je crois que, naturellement, parce que nous sommes pécheurs, et ça a été rappelé ce matin, notre cœur a tendance, naturellement, à vouloir mettre une distance entre lui et Dieu. Mais Christ a fait l'œuvre qui nous permet de nous rapprocher. Et nous devons faire cette démarche de nous rapprocher de Dieu quotidiennement dans la prière. Ce que nous devons jamais oublier, c'est que le témoignage, l'évangélisation commence par un effort de prière. Et nous allons voir pourquoi. Je suis actuellement à Aix-les-Bains, j'habite là-bas, et je suis dans une équipe d'implantation d'église. Et vous savez, nous sommes plusieurs, nous aimons réfléchir, et nous aimons les méthodes et les concepts, justement. Alors nous avons réfléchi pendant quasiment une année entière sur notre stratégie pour évangéliser et témoigner. Et ça a donné un résultat assez joli, où nous avons des beaux schémas, nous avons des méthodes, nous avons des programmes, nous avons plein d'idées. Mais si nous ne commençons pas par la prière, par persévérer dans la prière, je sais qu'il y aura un problème. Parce que ce qui nous est demandé avant tout en tant que chrétien, en tant que disciple, ce n'est pas d'être inventif, de créer des nouvelles méthodes, mais c'est d'être fidèle. Dieu nous a donné un esprit et Dieu se réjouit quand il nous voit avoir de l'imagination pour lui et avoir de l'audace. Mais à la base, la première pierre doit être celle de la persévérance dans la prière. Parce que par la prière, nous allons apprendre à voir les gens qui nous entourent, nos amis, les membres de nos familles qui ne sont pas au Seigneur, nos voisins, tous nos collègues, comme Dieu les voit. Nous allons prendre conscience de leur perdition. Et c'est ce que Christ a fait pendant 3 ans avec ses disciples. Il leur a montré comment lui, il voyait le monde. Et nous avons besoin des yeux de Dieu pour savoir comment nous comporter. Origène, un des premiers chrétiens, des premiers théologiens, disait ceci: la prière n'est pas d'abord un devoir, mais avant tout, et j'aime cette expression, une participation à la vie, à l'activité et à la volonté de Dieu. En persévérant dans la prière, petit à petit, les pensées de Dieu deviennent mes pensées. Parce que je lui permets de faire totalement lumière, comme il agit dans la création en faisant lumière, en chassant les ténèbres. Par la prière, je lui donne le temps de projeter sa lumière par le Saint-Esprit dans mon cœur et de chasser les ténèbres. Et attention, ce n'est pas parce que Paul ne parle pas non plus de persévérer dans la connaissance de la parole qu'il faut la mettre de côté. Mais là, l'accent est dans ce texte et sur la prière. Et je voudrais faire une deuxième remarque. Il dit « persévérer ». Il ne dit pas « que chacun de vous persévère ». Nous sommes dans une culture qui est imprégnée par l'individualisme. Et nous sommes nous-mêmes, parce que nous sommes dans cette culture, avec une part d'individualisme. Et quand nous pensons à la piété, à notre relation avec Dieu, nous pensons vraiment une relation duelle entre lui et nous. Et parfois, peut-être que nous oublions que Christ parlait toujours à un groupe. Et les disciples ont dit « apprends-nous à prier ». Et la plupart des commandements dans le Nouveau Testament sont adressés à une communauté. Et là, Paul dit « persévérer en communauté ». Cela est sous-entendu. Alors, comment persévérer dans toutes nos petites églises locales en France? Et je pense que là, il faut se fixer des objectifs parce que sinon, ça reste des vœux pieux. Et à chacun, selon la réalité de son église et la configuration, à réfléchir comment persévérer dans la prière. Nous, à Aix, on est plusieurs à être voisins. Et c'est super. Et avec un frère, on a décidé, tous les matins, avant de commencer à travailler, on se retrouve et on prend une demi-heure pour lire la Bible ensemble et on prie ensemble, tous les deux. Et on prie pour que ce qu'on lit nous impacte pour cette journée-là. Et on prie l'un pour l'autre. On prie que Dieu nous donne de saisir les occasions qu'il mettra devant nous, qu'il ouvre nos yeux, qu'il voit nos collègues, qu'il voit toutes les personnes que l'on rencontre avec ses yeux à lui. Et qu'il nous donne le zèle de pouvoir saisir les occasions qui se présentent à nous, de témoigner de lui, de manifester l'amour de Dieu auprès de ces personnes-là. Et vous savez quoi? Ça marche. La semaine dernière encore, on a vécu une super expérience. On priait pour ça et on finit de prier et je croise dans les bâtiments où nous sommes une dame qui faisait le ménage. C'était donc 7h30 du matin et elle était la seule à travailler. Et du coup, je dis « Madame, comment ça va pour vous? Allez, venez avec nous, on va prendre le temps, on vous offre un café. » Et cette femme, ça fait des années qu'elle fait les ménages dans les locaux là-bas où on est. Et c'est la première fois qu'un des bureaux des entreprises qui étaient là lui proposait de boire un café et s'intéresser à elle. Donc du coup, on a pu aussi après se présenter. Et on a discuté ensemble. Et elle est très intéressée pour venir à nos groupes découvertes de la Bible. Super. Mais je sais que si je n'avais pas persévéré dans la prière, je l'aurais croisé, j'aurais dit bonjour, mais je n'aurais pas eu cette conscience, ce feu de me dire j'ai envie aussi de pouvoir lui partager l'amour que Dieu m'a manifesté. Je veux le partager aussi, ordinairement, dans mon quotidien. Comment rendre l'évangile ordinairement visible? Ça commence par un effort dans la prière. J'étais dans une église pendant un temps, quelques années, qui était super. C'était une église où il y avait au culte le dimanche matin environ 250 personnes, plus de 150 membres réguliers, au moins 5 ou 6 batteurs, des guitares, un pléthore de guitaristes, plein programme. Mais une église qui se reposait sur ses acquis et qui n'évangélisait pas. Et quand je suis arrivé dans cette église, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait ensemble, en communauté, pour évangéliser? Et la seule réponse que j'ai eue, c'était la fête de Noël. Je me suis dit, moi, j'étais jeune chrétien, j'avais le feu, et je me disais, mais juste une fête de Noël pour parler de Jésus dans toute l'année, c'est la seule chose qu'on fait? Alors du coup, j'ai dit, il faut que ça change. Alors j'ai fait une annonce, j'ai parlé aux anciens, j'ai parlé à tout le monde, et j'ai dit, samedi, on se retrouve, et on va tous dans la rue avec des évangiles, et on va tous témoigner. Et j'étais encouragé, et plein de gens m'ont dit, ouais, c'est une bonne idée. Et puis arrivé le samedi suivant, sur les 200 personnes, on était deux. Moi, un autre gars. Et j'étais en colère. J'étais déçu. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce feu-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas à cœur d'aller dans la rue? Bon, j'étais un petit peu fou furieux. Et pour moi, tout chrétien devait avoir tout le temps des évangiles dans la poche et en donner au moins 10 dans la journée, sinon on était des mauvais chrétiens. J'étais vraiment un extrémiste et j'ai appris à me pondérer, à me comporter un peu plus avec sagesse, et que nos dons aussi se manifestent de façon différente, et il y a une richesse de ministère dans l'évangélisation, il n'y a pas que la rue. Mais je croyais que c'était la chose qu'il fallait faire. Et du coup, étant déçu avec ce frère qui était là, qui avait le même fardeau, on s'est retrouvé le soir chez moi, et on a compris qu'en fait, il fallait que ça commence par un effort de prière. Alors on a commencé tous les deux régulièrement à se retrouver et à prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. À prier ensemble pour que les jeunes se lèvent pour l'évangélisation. Pour que les plus anciens encouragent ça et participent aussi. Que les aînés soient un modèle pour les jeunes et les jeunes un encouragement pour les aînés. Que ça soit vécu aussi entre les générations. Et on a commencé à prier, on a continué. Et puis on avait le feu, et petit à petit on a vu des jeunes se lever, et des moins jeunes encouragés et se lever aussi. Et maintenant c'est une église qui passait d'un culte pour la fête de Noël à tout un festival pendant tout le mois de décembre, où tous les jours, pendant le mois de décembre, toute l'église est dans la rue, distribue des évangiles, invite les gens, organise des concerts, et dans l'année il y a une multitude d'événements pour l'évangélisation. Et on a vu cette transformation dans l'église locale uniquement par la prière. Pas une question de charisme, de leadership, mais avant tout, c'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre dans cette église. Et on a constaté ça, et on était émerveillés de voir que la prière était efficace. La prière va m'aider aussi à mettre le deuxième commandement que Paul cite dans ce texte. Paul dit ensuite: conduisez-vous avec sagesse. Alors, quel est le commencement de la sagesse? Je vous laisse me répondre. C'est quoi la sagesse? Je vous laisse participer un petit peu. Craindre l'Éternel. Et comment ça va se manifester dans nos actes, la crainte de l'Éternel? Allez-y, on se lâche. Hein. Un exemple, comment ça peut se manifester? L'obéissance. L'obéissance, excellent.
Savoir se maîtriser.
Savoir se maîtriser, ah, super.
Chercher sa volonté.
La connaissance, tout à fait, tout à fait. Mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Vous comprenez? Ça se manifeste par un comportement concret, dans des actes du quotidien, cette crainte de l'Éternel. C'est vouloir lui rendre gloire et refléter sa gloire autour de nous. Vous savez, si Paul dit ça aux Colossiens, ce n'est pas par hasard. Nous avons beaucoup de points communs dans notre société et notre culture actuelle avec le premier siècle. Les Colossiens vivaient dans une ville, dans une société qui était remplie de dieux différents. Et les gens vouaient un culte à une multitude de dieux parce qu'il fallait. C'était comme ça, c'était dans les mœurs, pour les récoltes, pour les fêtes religieuses et tout ça. Mais ces gens rendaient des cultes, mais il ne faut pas se méprendre, ils étaient profondément incrédules. C'est parce que c'était dans les mœurs et qu'il fallait le faire et qu'au cas où, il valait mieux le faire pour ne pas avoir une mauvaise récolte. Donc on rendait ces cultes. Et il y avait des autels à tous les carrefours et les gens allaient poser des fleurs, allaient poser différentes offrandes uniquement pour avoir la paix. Mais croire ou pas en ces divinités ne changeait strictement rien à leur vie et ne faisait pas progresser leur vie morale, ni quelconque autre aspect de leur vie. Les gens pouvaient croire en plein de dieux sans que ça ne change strictement rien dans leur vie. Et ça ne doit pas être le cas pour les chrétiens. Pour les chrétiens, ils devaient se détacher par leur comportement, avoir un comportement de fidélité, d'obéissance et de connaissance de Dieu et refléter sa gloire. Et c'est pour ça que la sainteté est une condition sine qua non pour que l'évangile soit ordinairement visible et compréhensible dans notre vie. Si nous ne cultivons pas une vie de sainteté, d'obéissance, de fidélité, de marche à la suite du Seigneur, nous ne pouvons pas rendre l'évangile compréhensible, intelligible et pertinent. Ce n'est pas une réponse, c'est une divinité de plus, une idole de plus, à côté de celle de l'hédonisme, du matérialisme, de la voyance, de l'occultisme, etc. Et il n'y a aucune différence. Notre vie doit être imbibée de la présence du Seigneur. Et si l'évangile que je projette n'est pas conforme aux quatre que je peux lire dans ma Bible, c'est qu'il y a une différence. Pourquoi les gens ne croient pas aux politiques? Quotidiennement, presque, nous sommes habitués aux scandales politiques. Rien que pendant l'année 2012 et 2011, entre des scandales comme DSK, Jérôme Cahuzac et d'autres, font que les gens, aujourd'hui, dans notre société, manque de confiance cruellement envers les politiques. Les gens ne croient pas. Ils savent que c'est des beaux discours. Pourquoi? Parce que entre le message et le messager, il y a une dichotomie totale. C'est incohérent. Un homme qui lutte contre la fraude est lui-même un des plus grands fraudeurs. Les gens ne croient plus en ça. Ils ne sont plus convaincus. Dieu n'a pas choisi d'envoyer un rouleau sur terre avec un message, il a envoyé son Fils. Il a voulu l'incarnation. Le message, la parole de Dieu a été incarné. Et le message, la parole de Dieu, l'évangile, doit de même s'incarner aussi dans nos vies pour qu'il soit ordinairement compréhensible et visible. Et se comporter avec sagesse, nous l'avons partagé hier soir avec les jeunes, ce n'est pas simplement éviter de faire du mal, essayer d'avoir une bonne morale, mais c'est rentrer pleinement dans les œuvres de Dieu. Et ceci nous mène au troisième commandement. Paul dit « Rachetez le temps ». Rachetez le temps. Est-ce un appel à l'activisme? Je ne crois pas. Je crois que c'est un appel à la valorisation de nos activités. Je m'explique. Le temps est quelque chose sur lequel je ne peux influer. On le subit tous de la même façon. Une minute, c'est une minute. On a 24 heures dans la journée et on fait avec. Mais Paul encourage les chrétiens, leur demande de valoriser le temps. C'est-à-dire que chaque chose soit au service de la gloire de Dieu, rende un témoignage à Dieu. Et un exemple, vous avez par exemple un membre de la famille qui habite loin, vous le voyez 4 fois dans l'année, un parent, un enfant, il n'est pas au Seigneur. Comment est-ce que vous allez racheter le temps avec lui ? Est-ce que le temps va juste passer, on se voit, on est ensemble, et puis on ne va surtout pas amener le sujet sur la table ? Ou est-ce qu'on va racheter le temps et tout faire pour être un bon témoignage déjà auprès de lui et valoriser le temps qu'on a, le mettre au profit du service du Seigneur ? Racheter le temps, ça veut dire être intentionnel dans ce que l'on fait. Avoir des échanges, des relations qui soient intentionnelles. Ça ne veut pas dire instrumentaliser l'autre, mais rajouter une autre dimension d'urgence et de désir de partager l'Évangile. Et cela nous mène au 4e commandement, parce que si on a des relations où on est intentionnel, que l'on persévère dans la prière, qu'on se conduit avec sagesse, qu'on rachète le temps, il va falloir que l'on sache répondre aux questions. Et c'est le 4e commandement. Sachez comment répondre. Pourquoi dit-il « sachez comment répondre » Et j'ai trouvé ce commandement à la base un petit peu surprenant. Il ne dit pas « poser des questions », il ne dit pas « saisissez toute occasion, bonne ou mauvaise, pour annoncer l'Évangile à la personne ». Non, il dit « sachez comment répondre ». Tiens. Mais si je réfléchis bien, si je réponds à une question, c'est qu'on m'en a posé une. Vous êtes d'accord avec ça? Si je dois répondre, c'est qu'on pose des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on poserait des questions d'ailleurs? Eh bien, si on vit les versets 2 à 5, c'est-à-dire que si on me pose des questions, c'est parce que je me conduis avec sagesse et que je rachète le temps. Et si je me conduis avec sagesse et que je rachète le temps, c'est parce que j'ai persévéré dans la prière. C'est la logique du Saint-Esprit. C'est la logique de notre relation avec Dieu. Notre relation avec lui influence nos relations avec les autres. Et cela implique 2 choses. Si nous vivons l'Évangile pleinement, que nous cultivons cette vie-là de rendre l'Évangile ordinairement visible, compréhensible par nos paroles et nos actes, alors forcément, notre vie va poser question et on va nous poser des questions. On n'a même pas besoin de créer artificiellement des échanges. Les gens vont nous poser des questions. Et l'inverse est vrai. Si l'on ne nous pose pas de questions sur notre vie, pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on a l'air quand même assez différent des autres au travail ou à l'école? C'est qu'il y a peut-être un signe d'alerte, d'un dysfonctionnement. Quand je me suis converti, avant ça, j'ai eu une vie assez dissolue et j'avais des petites copines. J'ai vécu avec une fille pendant 2 ans. Et puis après, je me suis converti. Et je me souviens d'un ami qui m'a dit, je lui parlais de l'Évangile, et sa seule réponse, parce que j'étais encore assez... Il disait, toi aussi, tu dois donner ta vie à Jésus et tout ça, tu dois aller, il faut te transformer, il faut abandonner tout ça. Il m'a dit, oula, il m'a dit, je te connais, moi j'attends de voir. Textuellement, il m'a dit, moi j'attends de voir dans ta vie. Ok. Et puis j'ai rencontré Marion, mon épouse, et je lui expliquais. Donc elle était de Paris, j'étais de Grenoble, et donc nous sommes rencontrés. Elle est venue Et elle a dû prendre un appartement pendant qu'on préparait notre mariage. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu vis pas avec elle? Je dis, mais non, mais ça c'est fini. Je dis, moi maintenant, je veux vivre selon les plans de Dieu. Et je sais que ce que je vis là est meilleur. Et là, je suis en train d'honorer ma petite amie qui va devenir mon épouse. Et je vais l'attendre jusqu'au mariage. Et tu sais quoi? Je vais la prendre dans mes bras et je vais franchir le seuil de la porte avec elle. Ça sera super. Je vais vivre quelque chose de merveilleux. Et puis quand je regarderai son père, je pourrai le regarder droit dans les yeux. Parce qu'il saura que j'ai profondément aimé et respecté sa fille. Parce que je l'ai attendue et que j'ai obéi à Dieu. Ah, ça l'a scié. Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Explique-moi plus. Et tous mes collègues à l'école qui me disaient, mais t'es fou, t'attends de te marier. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'eux faisaient. Mais ils me disaient, mais c'est pas logique. Et moi, je pouvais leur dire, mais avant, je faisais comme vous. Ça, j'en ai connu. J'ai connu ça. Mais par rapport à ce que je vis aujourd'hui, en suivant le Seigneur, mais ça n'a rien à voir. Et je vous plains parce que vous ne connaissez pas ce que je vis. Et au début, je passais pour un martien. Et 3 ans après, je me souviens d'une fille qui était dans un groupe de travail avec moi pendant 3 ans et qui m'a dit, mais qu'est-ce que ta femme a de la chance? Non pas parce que je suis Brad Pitt, loin de là, mais parce que je l'ai respectée. Parce que elle, cette fille, pendant ces 3 ans, était sortie avec je ne sais pas combien de garçons, s'était fait larguer je ne sais pas combien de fois. Et elle cherchait son bonheur dans des relations et en fait, sa vie s'écroulait petit à petit. La question que nous pose notre société postmoderne, qui est revenue de tout, qui est revenue de la religion, qui est revenue de la raison, qui est revenue de la science, qui est revenue du progrès, qui est revenue de toutes les philosophies, c'est la question de la vérité et de l'intégrité. Nous devons avoir un comportement qui soit profondément intègre. Les questions qu'on nous pose, nous avons le commandement de savoir y répondre. Et Pierre répète, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je sanctifie Christ dans ma vie, cela produit en moi une espérance qui est communicable aux autres et les gens me demandent raison de cette espérance. Alors comment répondre concrètement aux questions que l'on va me poser? Parce qu'il y a aussi des questions pièges. Et j'aime me rappeler que dans le livre des Actes, par 3 fois, nous retrouvons Paul qui donne son témoignage. Parce que ce n'est pas simplement une vérité abstraite, c'est une vérité, c'est l'histoire de Dieu qui m'a rencontré. Il y a une expérience, et Paul parle de son expérience. Il y a peu de temps, nous sommes allés avec une équipe à Aix-les-Bains évangéliser au Festival de la Voyance, qui se déroule 3 fois par an à Aix-les-Bains, le Festival National de la Voyance, une ville profondément ancrée dans une tradition occulte. Et donc, nous sommes allés voir tous les voyants et nous avons pu leur parler de l'Évangile. Et c'était super, parce que eux, ils me parlaient tous d'expériences spirituelles qu'ils avaient faites avec des esprits. Et je me souviens d'une dame, une voyante, qui me parlait des expériences qu'elle faisait avec les esprits dans la nature. Et elle me parlait de plein de petites expériences. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que moi aussi, j'avais vécu une expérience spirituelle, mais bouleversante, qui avait transformé ma vie. Et elle me disait qu'elle parlait aux anges. Et moi, j'ai pu lui dire que je parlais au patron des anges, à celui qui avait tout pouvoir sur la terre et dans le ciel et qui réclamait la place qui lui est due. Et je lui racontais mon expérience, comme il avait transformé ma vie. Mon expérience était bien plus forte que la sienne. Et je dis cela parce que ça image quelque chose qui est ancré dans notre société, c'est qu'on remet en question la vérité, mais on ne remet pas en question l'expérience. Si tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, c'est que c'est vrai. Partagez votre témoignage à vos amis. Dites-leur pourquoi vous vous comportez comme ça. Racontez-leur cette expérience quand vous avez appris à connaître le Seigneur, comment il a transformé votre vie. Et bien sûr, si notre vie n'est pas cohérente avec notre foi, on n'a rien à raconter. Et puis, comment répondre si on nous pose la question piège ? Récemment, j'ai réfléchi à cela et je voudrais, avant de conclure, donner trois petites astuces, une méthode. Allez, j'y reviens, je retombe dans mon travers pour répondre aux questions. Alors, par exemple, une remarque que j'ai eue il n'y a pas longtemps, on m'a dit, ouais, mais de toute façon, on ne peut pas avoir confiance en la Bible, elle a été falsifiée. Est-ce que vous avez déjà entendu une objection dans ce genre-là ? On ne peut pas avoir confiance en la Bible. C'est un grand classique. Alors, il faut s'inspirer là de la sagesse des journalistes. Je vous explique. Un bon journaliste, quand il reçoit une information ou une remarque, pose trois questions que je nous invite à nous approprier et à avoir comme réflexe pour savoir comment répondre. Trois questions. C'est tout simple. La première question que pose un journaliste, c'est d'où vient l'information ? Qui vous l'a dit ? Deuxième question, c'est est-ce que la personne qui a donné cette information est crédible, fait autorité ? Troisième question que se pose un journaliste avant de relayer une information, c'est est-ce qu'on en a des preuves ? Est-ce qu'on peut relier ? Est-ce qu'on peut croiser ? Est-ce qu'on a un faisceau d'indices ? Est-ce qu'on peut croiser l'information ? Vous entendez souvent ça. Et on cite plusieurs sources. Ouais, la Bible, elle a été falsifiée. Ah bon ? Mais qui te l'a dit ? Un pote. Mon père. Ah, ok, intéressant. Est-ce qu'il fait autorité ? Est-ce que c'est un connaisseur en particulier ? Tu sais d'où il a cette information-là ? Si moi, demain, je vous dis qu'il va avoir un crash boursier, j'ai aucune autorité parce que je n'y connais rien. Par contre, si des économistes vous le disent, là, ça fait autorité. Vous comprenez ? Et puis, est-ce que tu peux me prouver que la Bible a été falsifiée ? Et après, on va répondre. Et donc là, il faut que nous-mêmes, nous fassions aussi un effort. Chaque chrétien a cette responsabilité de savoir répondre. Et donc, nous ne pouvons pas passer à côté des questions principales que l'on pose à la foi. Sur la résurrection de Christ, sur l'autorité de la Bible, sur le Dieu créateur, sur la réalité d'un jugement, etc. Nous devons faire l'effort de réfléchir comment, encore une fois, pas seulement individuellement, mais en Église, pouvoir apporter des réponses à ça. Comment nous former ? Comment aller pêcher les infos ? Quel bouquin lire ? Parce que c'est un commandement, nous devons y obéir. Savoir répondre aux questions qu'on n'aimerait pas que l'on nous pose. Et beaucoup de chrétiens n'osent pas témoigner parce qu'ils ont une peur terrible de ces questions. Et je crois, en réalité, qu'une fois qu'on n'a plus peur de répondre à ces questions-là, ce sont des occasions magnifiques, des leviers dans les conversations, parce que les gens s'intéressent à notre foi. Et que ces objections nous donnent des occasions de pouvoir témoigner et nous fortifient même dans notre foi. Le christianisme s'est toujours construit dans toute son histoire, dans l'opposition. Et le message de l'Évangile n'a jamais été aussi pertinent qu'au XXIe siècle. Alors, pour conclure, je voudrais dire que la meilleure des défenses de la foi, le meilleur moyen de rendre l'Évangile ordinairement visible et compréhensible autour de nous, c'est d'être ce que l'on appelle incarnationnel. Désirer incarner Christ. Après tout, c'est ce que veut dire chrétien, petit Christ. Et ce nom a été donné à Antioche pour la première fois. Pourquoi ? Parce qu'on disait à ces gens-là, regarde, ils sont comme le Christ, ils sont ridicules. C'est des petits chrétiens, quoi. On va les appeler chrétiens. Ces gens désiraient tellement ressembler à Christ qu'on les appelait petits Christ. Et c'est ce que l'on doit chercher. Parce qu'on ne peut pas dissocier Christ de l'Évangile. si on peut nous appeler chrétiens, l'évangile est lisible dans nos vies. Alors rappelons-nous ces quatre commandements et qu'ils soient pour nous un mode de vie. Persévérons dans la prière, premier commandement. Deuxième commandement, comportons-nous avec sagesse. Troisième commandement, rachetons temps, soyons intentionnels dans nos activités. Et quatrièmement, sachons comment répondre. Je conclue par la prière. Seigneur, merci, merci du fond du cœur, parce que c'est toi qui as l'origine de notre salut, c'est toi qui as l'origine du plan de la rédemption, c'est ta mission et tu ne connais pas l'échec. Et Seigneur, tu nous as ordonné de prier pour que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Et je te prie que chacun d'entre nous, nous nous approprions cela aujourd'hui, que nous réalisions que nous sommes tes ouvriers dans notre vie, dans notre quotidien, pour témoigner de l'Évangile, pour le faire rayonner, Seigneur, pour que nos vies aient plus de sens que simplement métro, boulot, dodo, mais que nos vies servent la diffusion de l'Évangile au quotidien. Alors Seigneur, aide-nous à persévérer dans la prière. Que ta parole aussi brûle dans nos cœurs pour que nous sachions comment nous comporter avec sagesse. Nous avons besoin que tu éclaires notre sentier par ta parole pour savoir comment nous conduire, comment marcher après toi. Seigneur, apprends-nous à vivre dans ta crainte. Apprends-nous aussi à voir le monde avec tes yeux, voir nos amis avec tes yeux et à racheter le temps que nous passons avec eux, Seigneur. Aide-nous à avoir conscience que le temps est compté, que ce soit pour nous ou pour nos amis. Et Seigneur, donne-nous du courage, donne-nous la sagesse pour savoir comment il faut répondre. Donne-nous la grâce dans nos réponses, donne-nous le sel, donne-nous de donner envie à ces personnes de venir courir et se jeter au pied de ta croix et être rachetées par ton sang, Seigneur. Que chacune de nos vies soit à ton service pour que l'Évangile soit ordinairement visible et compréhensible. Fais-nous cette grâce, Seigneur, et assiste-nous par ton esprit, parce que sans toi, nous confessons et nous reconnaissons volontiers que nous ne pouvons rien faire. Alors pardonne-nous, Seigneur, et pardonne-moi, moi le premier, pour toutes ces journées où je vis comme si tu n'étais pas là, où je vis comme s'il n'y avait pas cette réalité, Seigneur, que tu veux m'utiliser pour amener d'autres à toi. Nous prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.